Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Roussillon.
Bonjour et bienvenue, voici le tout nouveau numéro du carnet de région pour cette semaine, l'actualité en région Occitanie, Pyrénées, Méditerranée avec les radios associatives en région qui vous proposent l'actualité condensée de la semaine à venir en une vingtaine de minutes. Au sommaire de ce nouveau rendez-vous, le dépistage du cancer du côlon est détecté à ce jour à 44% contre 60% des cancers du sein. L'explication dans cette édition de cette différence à venir. La saison des paillotes s'ouvre pour la saison estivale à venir. Rencontre dans ce carnet de région avec un saisonnier et l'un des frères Ortiz, gérant de la Voile Bleue au Grand Travers à la Grande Motte. Les populations d'oiseaux dans nos campagnes ont diminué en moyenne de 30% en 15 ans selon une récente étude du CNRS en partenariat avec également le musée d'histoire naturelle. Ce constat est alarmant, nous le verrons. Bienvenue, voici maintenant l'heure de retrouver le carnet de région, l'actualité en région Occitanie, Pyrénées, Méditerranée.
Carnet de région.
Hérault.
Aude,
Gare,
Hérault,
Pyrénées-Orientales, Gare,
Lozère,
Aude.
L'actualité en langue de Roussillon.
Le festival Make a May est dédié à la culture occitane sous toutes ses formes et ses facettes. Depuis 2008, il se déroule chaque année au mois de mai sur le territoire du parc naturel régional du Haut-Languedoc. Des spectacles, bien évidemment, sont proposés, qui sont accessibles à un public d'ailleurs assez large, voire un public familial, sensible à la culture et en général occitane. Le festival va se dérouler du 5 au 13 mai prochain. L'occasion est bien d'avoir un aperçu avec l'invité de nos confrères de Radio Languedoc.
Quelle est l'onzième édition du festival Make a May? Qu'est-ce que c'est de banaran, les 8 jours de quel festival?
Alors, le festival Make a May va se dérouler toute la semaine de l'Ascension, du samedi 5 mai au dimanche 13 mai.
Sont préparés maintenant causes des stages de cantes, des passeggiados, des balles, des cinémas, des théâtres et c'est force en plein air qu'elle agenda.
Oui, c'est un festival que nous avons voulu ouvert à tous les publics et nous proposons de belles animations bien différentes pour permettre à chacun de venir découvrir notre beau territoire et découvrir la culture occitane et d'être sensibilisé justement à la langue, à la danse, au théâtre. Voilà.
Le festival est ouvert à tout public, Patricia, pour public occitan, pour public francophone, pour les grands, pour les petits.
Oui, c'est une véritable volonté de notre association de pouvoir attirer un large public. Et pour cela, nous travaillons activement sur des partenariats associatifs sur la vallée. Nous avons 12 associations qui ont des compétences diverses. Voilà, qui amène une véritable complémentarité et qui amène également leur public sur le festival. Et on arrive donc à faire vivre nos villages, à faire vivre cette vallée autour de cette culture occitane auquel nous sommes très attachés.
Alors, pour organiser justement un festival si riche, il vous faut en avoir de soutien. Quels sont les partenaires du festival Make a May?
Alors, les partenaires du festival, nous avons d'abord des partenaires institutionnels, bien sûr, toutes les communes sur lesquelles se déroule le festival. Donc, je veux citer la commune de Colombières, qui est notre fief, qui est notre village. Les communes d'Olargue, de Saint-Martin-de-Larçon, de Mons-la-Trival et de Prémian. À savoir que ce sont toutes de très jolies communes et des petites communes, puisqu'on est sur... on est à peu près moins de 600 habitants sur chacune d'entre elles. Et ensuite, évidemment, nous avons des partenariats beaucoup plus importants avec la région Languedoc-Roussillon, le département, le parc naturel du Haut-Languedoc. Voilà, et puis la presse écrite, la radio également. Et puis après, j'allais dire, le plus grand des soutiens, c'est tout ce public-là qui vient, qui se régale et qui nous suit depuis des années. Et puis nous, toute notre petite équipe aussi qui s'investit beaucoup. Voilà, il n'y a pas l'argent. L'argent est de financer le festival, on en a besoin. Mais on a également besoin de, de ce public qui, voilà, qui vient et qui se régale et qui nous encourage, quoi. Voilà.
Alors, justement, pour parler du public qui s'engage pour y aller, la population locale aussi s'organise pour recevoir ce public, pour les hôtes, le covoiturage. Comment ça se passe? Vous participez aussi de cette organisation?
Oui. Alors, tous les artistes accueillis sur le festival sont logés chez l'habitant.
C'est fantastique.
Oui. Voilà, sont logés chez l'habitant. Tous les repas proposés aux artistes et proposés au public sont réalisés, sont faits maison. Par des bénévoles, par notre petite équipe de bénévoles. Tous les produits sont achetés au producteur local. Là, on a un petit maraîcher sur le village qui va nous semer les radis, les salades, etc. Pour les proposer au repas. Et on se sert uniquement chez des producteurs locaux et chez des petits épiciers, des villageois. Et il faut savoir également qu'on est suivi par bon nombre de prestataires sur la vallée et les meilleurs restaurants, notamment cette année, qui nous offrent de très très jolis lots pour un grand loto qui est organisé le dimanche 6 mai pendant la fête de la brouette à Aulargues. Et ce loto est un moyen justement d'entendre la langue, de retrouver des belles expressions occitanes et d'amener des fonds qui sont réintégrés dans le festival, quoi, sur les prestations artistiques.
La 11e édition du festival Maïgomer revient au pied du Mont Caroux de ce samedi 5 mai jusqu'au dimanche 12 mai au programme de la danse, du théâtre, des balades aux flambeaux, du rondo-spectacle, la fête également, des concerts, bref, le temps de réellement en profiter. Rendez-vous sur le site tafanari.fr, tafanari.fr, des propos recueillis par nos confrères de Radio Languedoc. La suite de ce carnet de région, dans cette édition, d'après une récente étude de santé publique en France et l'Institut national du cancer, 60% des cancers du sein sont détectés à temps contre seulement 44% des cancers du côlon. Alors comment expliquer cette différence? Les réponses du docteur Jean-Loup Chappert, il est médecin directeur de Dépistage 34.
Le sein et le côlon sont deux pathologies pour lesquelles il n'existe un dépistage organisé. La participation au dépistage cancer du sein est autour de 50% en France et autour de 33% pour le dépistage cancer du côlon. Pour l'Hérault, on est autour de la moyenne nationale pour le dépistage cancer du sein et on est un petit peu en dessous pour le dépistage du cancer du côlon, puisqu'on est autour de 25%.
Comment expliquer cette différence? Est-ce que c'est parce que les gens se sentent moins concernés par le cancer du côlon?
Difficile de savoir exactement. Le dépistage du cancer du sein organisé, il est beaucoup plus ancien. Il a commencé dans les années 2000. Le dépistage du cancer du côlon, il a été généralisé plutôt vers la fin des années 2000. Donc déjà, il y a une différence d'ancienneté et d'habitude prise sur le dépistage. Pour le dépistage du cancer du côlon, on avait un test qui était assez compliqué à faire réaliser puisqu'il fallait faire des tests sur des selles pendant 3 jours et ensuite l'envoyer par la poste. Depuis 2015, on a un test beaucoup plus simple mais qui est aussi plus fiable et qui est plus sensible. Donc les médecins également adhèrent mieux à ce nouveau test et donc en font mieux la promotion. Donc on attend toujours une augmentation du dépistage du cancer du côlon, mais comme ça a commencé fin 2015, on est toujours sur une dynamique, en tout cas ça monte, puisque nous on était autour de 20% avant et on est à 25%.
Et alors c'est l'occasion aussi de rappeler que le dépistage c'est important, 9 cancers sur 10 quand ils sont diagnostiqués à tôt, ils ont une grande chance de guérison.
Alors ça c'est pour le cancer du côlon, c'est ce qu'on dit, détecter tôt, on en guérit 9 sur 10, donc effectivement il faut se donner toutes les opportunités de faire ces détections. Pour le cancer du côlon, le test ne permet pas seulement de détecter des cancers, mais il permet également de détecter des polypes, qui sont des lésions parfois qui aboutissent à des cancers. Donc on détecte des lésions et on va les traiter avant même qu'elles deviennent des cancers. Donc ce n'est pas seulement une détection du cancer, mais une détection d'une lésion précancéreuse qu'on traite derrière. Donc on a un double effet, un effet sur le nombre de cancers et un effet sur la sévérité, puisque plus on détecte tôt, plus on traite tôt, et moins on a des traitements lourds et on a une survie qui est améliorée.
Vous parliez de dépistage organisé tout à l'heure, qu'est-ce que c'est?
Nous, on fait plutôt un dépistage de masse pour les risques moyens. On envoie une invitation tous les 2 ans à ces femmes, c'est les femmes de 50 à 74 ans qui n'ont pas pas d'antécédent de cancer du sein dans la famille ou qui n'ont pas elles-mêmes un premier antécédent de cancer du sein pour réaliser une mammographie. Et pour le cancer du côlon, on invite les hommes et les femmes de 50 à 74 ans à réaliser un test tous les 2 ans également. Et on cible également les personnes à risque moyen, qui correspondent à peu près à 80% de la population hein, de cette catégorie d'âge, puisque les autres, comme pour le sein, ceux qui sont à risque élevé ou très élevé, vont avoir un suivi particulier individuel auprès du médecin.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Et c'est donc maintenant que la saison des paillotes s'ouvre une à une pour la saison estivale qui approche à grands pas, et c'est le cas notamment de l'incontournable plage privée des frères Ortiz, la Voile Bleue située au Grand Travers à la Grande Motte. L'occasion d'aller rencontrer tout d'abord un saisonnier qui travaille à cette paillote.
Donc ils ont fait une vidéo de recrutement avec leur adresse mail. Moi, j'avais jamais fait saisonnier, c'est nouveau pour moi. J'ai envoyé un mail, ils m'ont dit qu'ils aimaient former leur propre équipe, donc ils m'ont accepté. C'est pas évident de trouver des boulots sans expérience de nos jours, donc je les remercie fortement. Je fais mes études sur Montpellier, ça fait 3 ans que je suis sur Montpellier, du coup là je vais faire la saison toute l'année. Alors moi je suis serveur et runner, donc je vais servir les clients surtout le soir et le week-end quand il y a beaucoup de monde. Je fais des fois la journée, on est au côté bar, donc il y a 3 pôles ici, il y a le pôle restaurant, le pôle plage et le pôle bar. Moi je m'occupe du bar, je sers les clients et je débarrasse les plateaux. On aide aussi un peu à faire la plonge, à amener les bouteilles, il y a toujours des trucs à faire.
C'est quoi les qualités essentielles pour être saisonnier ici à la Voile Bleue ?
Beaucoup de sourire, beaucoup de sociabilité, faut aimer courir vraiment, on fait au moins 10 000 pas par jour. Faut aimer le contact humain, faut aimer ce qu'on fait parce que sinon on ne peut pas s'en sortir. Moi je me régale à chaque fois, franchement. Ouais. La plage, le beau temps, beaucoup de soleil, bon là ça va, il y a un petit peu de vent, mais sinon le cadre est vraiment exceptionnel. Et encore, la mer est un peu haute comme on est au printemps, mais l'été, une fois que la mer a descendu, il y a beaucoup plus de personnes devant sur les transats.
Et dernière question, si un jeune qui nous écoute veut par exemple devenir saisonnier à votre place, par exemple l'année prochaine pour postuler, quels conseils vous lui donneriez ?
Qu'il faut s'accrocher parce que les premiers jours sont assez compliqués, mais qu'on prend vite le rythme. Une fois qu'on a découvert ce milieu, on s'habitue et on se régale. Au début, c'est dur, faut pas lâcher, et après on se régale.
Écoutons à présent Joël Ortiz, propriétaire de la Voile Bleue depuis 21 ans, avec son frère qui nous dit que la réputation de la Voile Bleue n'est plus à refaire.
Oh, on va pas s'asseoir sur une réputation, il faut surtout l'entretenir. Non, c'est plus à faire. C'est vrai que depuis 21 ans, on a œuvré pour cet établissement qui a été crié et décrié. Où on a rencontré des gens extraordinaires, on a fait des mariages, on reçoit les gens des mariages qu'on a fait ici. Enfin, c'est quand même une histoire. La Voile Bleue, c'est une histoire du littoral Languedoc-Roussillon. On fait partie des premières plages. De ce fait, on est très heureux de pouvoir vous recevoir chaque année, vous expliquer les modifications qu'on fait et dans le sens qu'on évolue. Le chemin parcouru, il est énorme, il fallait vraiment y croire. Et la première chose que je dis aux jeunes, c'est travailler, mais ne faites pas les choses pour l'argent. Voilà, travailler, et après la réussite arrivera, mais je trouve qu'aujourd'hui il y a trop de gens que j'entends parler qui font les choses que pour l'argent, et foncièrement, si vous montez une plage privée il y a 20 ans derrière, il ne fallait pas le faire pour ça, il fallait le faire par passion. Et aujourd'hui, si on reste là, c'est qu'aujourd'hui c'est la seule entreprise jusqu'à ce jour qu'on avait qui nous permettait de vivre. Aujourd'hui, on est en train de prendre un virage parce que la relève arrive, j'ai mon fils qui arrive, les neveux qui arrivent, et on va commencer à acheter des affaires sédentaires. Alors, modification, déjà, c'était une réduction de plancher, on est passé à 600 mètres carrés parce que la préfecture nous a loué les 1500 mètres carrés comme auparavant, mais à 600 mètres carrés de plancher, il a fallu restructurer entièrement la plage. Tout le mobilier est neuf, tout le plancher en teck, comme vous avez pu voir depuis la route jusqu'à chez nous. Les finitions extérieures sont en teck, oui, on a fait un gros travail d'investissement sur la décoration qui est complètement décalé entre le bar et le restaurant, mais les aménagements sont, comme vous pouvez voir, voilà.
Oui, rien à dire. Parlez-nous également de la saison festive, une fois de plus.
Alors, la saison, elle se situe en deux temps. D'abord, il y a le restaurant qui est quand même la prédilection chez nous, parce que quoi qu'on pense, on passe au Voile Bleue, on passe aux fêtes. Mais il n'y a pas que la fête. Le restaurant, aujourd'hui, représente 50% de notre chiffre d'affaires sur une saison. C'est pas rien du tout. Et après, la partie festive, où on fait toujours plaisir à nos chers clients de la région, parce que comme vous savez, la Voile Bleue a une priorité, c'est de travailler uniquement avec des gens de la région. Quand je dis région, c'est bien sûr Montpellier, Nîmes, Avignon, Aix-en-Provence, Salon et la Vallée du Rhône. Une saison réussie, c'est que nos clients soient contents et nos salariés ravis de travailler avec nous. Ça, c'est une saison réussie, parce que si vous faites référence à l'aspect financier, forcément, une saison réussie, c'est d'arriver à payer ses obligations. Mais aujourd'hui, nous, la saison réussie, c'est que nos clients nous disent « Super, on a passé un bon été ». Ça, c'est une saison réussie. C'est pour ça qu'on perdure, parce que, vous savez, un 21 ans de saison, c'est un renouvellement perpétuel.
Alors,
Il y a le plaisir des gens, ça c'est une saison réussie, mais aussi l'équipe qui doivent être aussi soudées les uns les autres.
La Wolbe, je pense que c'est quand même, ça a gardé l'esprit famille. Même si on n'est plus de 80 salariés, honnêtement, quelqu'un qui ne rentre pas dans l'ADN de Wolbe ne reste pas. Quoi. Voilà. C'est une structure en place avec un cadre bien défini, mais il y a quand même la proximité autant avec les salariés qu'avec moi et mon frère. Il n'y a aucun problème.
Carnet de région.
Hérault.
Gare.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Gare.
Lozère.
Aude.
L'actualité en langue de Croussillon.
Dans une récente étude, le CNRS et le Musée d'Histoire Naturelle affichent un constat alarmant. Les populations d'oiseaux dans nos campagnes ont diminué en moyenne de 30% en 15 ans. Alors comment expliquer un tel déclin? Les réponses de Pierre Maigre, président de la Ligue de protection des oiseaux dans l'Hérault.
Les études qui ont été réalisées à la fois par le CNRS et par le Muséum National d'Histoire Naturelle sont très claires à ce niveau, puisqu'ils pointent du doigt, sans aucun conteste possible, l'utilisation de produits phytosanitaires. En particulier de néonicotinoïdes en matière d'agriculture.
Les néonicotinoïdes, alors c'est un lien indirect, c'est-à-dire qu'ils attaquent les insectes et du coup il y a une rareté de l'alimentation, les oiseaux disparaissent.
Les insectes, oui, mais ils attaquent toute la vie animale, si vous voulez, dans les 30 ou 40 premiers centimètres de la terre, c'est-à-dire que les lombriques disparaissent aussi, etc. C'est un véritable désert de tous ces petits animaux qui constituent la base de la chaîne alimentaire de l'ensemble des animaux. Donc elle s'apprive effectivement de très nombreux oiseaux, de toute nourriture.
Dans l'Hérault, quels sont les oiseaux menacés? On parle de l'ortolan par exemple?
Oui, alors le fameux ortolan qui fait parler de lui au moins jusqu'à ces dernières années dans les Landes, puisqu'il était braconné en dehors de toute légalité. On a vu effectivement les effectifs du brun ortolan baisser d'environ 25% dans notre région. Chez nous, c'est un oiseau tout au moins que l'on va trouver dans les plaines agricoles, près du vignoble, etc.
La LPO milite aussi pour que la mascotte des JO 2024, ce soit un moineau.
Oui, bien entendu. Alors le fameux moineau, celui que nous avions l'habitude de rencontrer, omniprésent, j'allais dire, sur toutes les communes, dans tous les jardins, etc., lui-même a vu ses effectifs fondre d'une manière relativement importante. Alors pas qu'en France, bien entendu. C'est sur l'ensemble de l'Europe, où on a en gros, si vous voulez, au niveau de l'Europe, une moyenne de 60% de baisse en quelques années. Si on revoit les études réalisées en Allemagne, en Suède, en Grande-Bretagne ou en France, pour la France, pour notre pays, donc, c'est une baisse de 73% en 13 ans qui a été mise en évidence à Paris, par exemple. Fort de ce constat des plus alarmants, la LPO a proposé effectivement à Madame le maire de Paris que ce soit à l'occasion des prochains JO, l'animal symbole, puisque nous considérons que les grandes manifestations doivent s'attacher aussi, par les retombées médiatiques qu'elles engendrent, etc., à mettre en avant ces problèmes de biodiversité. Puisque nous, l'espèce humaine, je veux dire, fait partie aussi de la biodiversité, et on ne peut pas raisonnablement penser que ceux qui empoisonnent les oiseaux, les insectes, etc., seraient absolument inoffensifs pour l'homme. Donc je crois que c'est un problème également de survie pour l'espèce humaine.
Pierre Maigre était au micro de François Charbonnel pour RCF Maglonero. Et bien voilà, c'est ainsi que s'achève ce tout nouveau numéro du Carnet de Région, l'actualité en région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Merci à toutes les radios qui nous ont apporté à ces sujets de la semaine écoulée et de la semaine à venir. Merci également aux autres radios qui diffusent ce magazine d'actualité à retrouver chaque semaine, même endroit, même heure. L'occasion de vous souhaiter à toutes et à tous un excellent et très très bon week-end. Prenez soin de vous surtout et rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro du Carnet de Région. C'était l'actualité près de chez vous.